Minuit sonnait, oh, c'est les moins ça. Minuit sonnait, oh, c'est les moins ça. Minuit sonnait, à jade, c'est les poumons volés. Minuit sonnait, oh, c'est les moins ça. Minuit sonnait, oh, c'est les moins ça. Minuit sonnait, à jade, c'est les poumons volés. Minuit sonné, oh, c'est les moins ça. Minuit sonné, minuit sonné, oh, c'est les moins ça. Minuit sonné, minuit sonné, c'est la pour moi voler. Minuit sonné, oh, c'est les moins ça. Minuit sonné, minuit sonné, oh, c'est les moins ça. Minuit sonné, minuit sonné.
Troisième intervenante de cette émission sur la convivialité, Fanélie Pardon. Fanélie est architecte, chanteuse et membre de l'association Yes We Camp. Ensemble, ils et elles montent des projets qui s'apparentent à des alternatives urbaines. L'occupation temporaire de lieux transitoires, en passe d'être détruits ou réaffectés, est leur spécialité. Créée en 2013 à Marseille, Yes We Camp a notamment été partie prenante du projet Les Grands Voisins à Paris avec l'association Aurore et est aussi connue pour Coco Velten à Marseille, lieu typique de leur approche qui combine hébergement d'urgence et programmation socio-culturelle et artistique. Par ailleurs, elle accompagne par exemple l'association Zerm à Roubaix pour la transformation de l'abbaye des Clarisses en un lieu culturel et social d'innovation architecturale. Enfin, et sans être exhaustif, l'association pilote le projet Bureaupolis dans le 9e arrondissement de Marseille, un bâtiment de 9 étages accueillant entre autres 250 artistes, l'école de cinéma Courtrage-Mé, la Croix-Rouge, mais également une programmation artistique et événementielle. Dans ce cadre, en collaboration avec l'association Voyons Voir et Yes We Camp, nous, le collectif UCLUC, avons créé un programme de résidence qui permet au long de l'année 2021-2022 d'accueillir 6 résidents et résidentes, artistes ou commissaires, pour une exposition au 9e et dernier étage du bâtiment. Mais pour l'heure, parlons avec Fanélie des enjeux de Yes We Camp concernant la convivialité. Bonjour Fanélie, merci d'avoir accepté cet entretien pour la deuxième émission de Radio UCLUC qui porte sur la convivialité. Nous sommes à Bureaupolis, au premier étage, exposé sud, on a le soleil avec nous. À Bureaupolis, tu es chargé de la coordination technique et architecturale, une mission déléguée par l'association Yes We Camp, pour laquelle tu travailles depuis plusieurs années, et qui chapeaute ce projet d'atelier mutualisé dans le 9e arrondissement de Marseille, au 343 boulevard Romain-Rolland, qui réunit 250 artistes, la Croix-Rouge, l'école de cinéma Courtrage-Mé, des espaces de pratique corporelle, des espaces d'exposition, mais tu as également une pratique de théâtre, je crois, et une pratique de chorale. Donc si jamais tu peux nous en parler, tu pourras aussi. Et donc pour commencer cet entretien, peux-tu nous présenter l'association Yes We Camp ? Comment elle s'est formée et quels sont les enjeux qui l'animent ?
Bonjour Mathis, merci de m'interviewer. Alors Yes We Camp, c'est une association qui est née en 2013, à partir de la période où il y a eu l'événement Marseille, capitale européenne de la culture. Donc, qui est un événement qui se passe en Europe et qui change de ville. Lorsqu'il y a eu cet événement, il y avait donc toute une programmation qu'on appelle IN, en gros, qui était officielle, financée, et a émergé une programmation en off, aussi par une personne qui se trouvait dans l'aménagement du territoire des quartiers nord de Remède de Marseille. Donc cette personne, en fait, a aidé à impulser un off de la capitale européenne de la culture. Et l'idée, c'était de pouvoir accueillir et héberger des personnes qui viendraient visiter Marseille et visiter ce qui s'y passe culturellement, sachant qu'on a une offre qui est très réduite à Marseille. On a des auberges, pas d'auberge de jeunesse, mais on a plutôt des auberges du type Airbnb ou bien des hôtels. Pas de camping, pas d'auberge de jeunesse, donc une offre qui ne permet pas d'accueillir tout type de visiteurs. Donc a été émise l'idée de créer un camping éphémère pour quelques mois sur un espace du port autonome de Marseille qui nous a mis à disposition cet espace. Donc à l'époque, en fait, c'est une quinzaine de personnes qui se sont regroupées, qui étaient bénévoles et qui avaient des métiers très divergents. Donc, ingénieurs, école de commerce, architectes, boulangers, maçons. Ces personnes se sont regroupées et ont créé un camping en se disant « Ok, il va falloir qu'on accueille du monde, on est quand même excentré du centre-ville, donc on va aussi proposer une programmation culturelle, des événements sur site et différentes offres. » Et en fait, ce lieu, ça a permis aussi à des ingénieurs, à des archis, à plein de personnes de rassembler leur métier et d'avoir un terrain d'expérimentation. Donc il y a eu des constructions avec des caravanes, des échafaudages. Et au fur et à mesure, ça a duré 3-4 mois, ce projet a vraiment fait émerger des connexions entre les personnes qui montaient le projet, qui venaient faire du tourisme ou qui étaient voisins alentour. Ce projet a duré 4 mois et ensuite tout a été démonté. Il y a aussi eu des concerts, des événements, il y avait de la restauration, il y avait de la récupération d'eau, de douches, de la phytoépuration, bref, des expérimentations très diverses et variées. Et ensuite, tout le monde est parti. Et le nom de l'association est un héritage de ce camping, d'où il est resté comme ça, Yes We Camp. Et à partir de là, il s'est passé 2-3 ans à faire d'autres expériences de projets sur des périodes courtes, toujours temporaires, dans des lieux qui ne sont pas forcément voués à l'usage qu'on allait proposer. Les Grands Voisins, donc un projet qui est survenu à Paris en 2015, a permis de commencer à salarier des personnes parce qu'il y avait une activité de bar et de restauration et d'accueil du public. Et là, c'est vraiment figé un modèle de comment fonctionne Yes We Camp, c'est de confronter, on va dire, les mondes qui existent actuellement dans notre société, mais qui sont dans des sphères un peu parallèles, et de les mettre ensemble pour montrer un peu la réalité du monde. C'est-à-dire que dans la majorité de nos projets, on a de l'hébergement d'urgence ou une action sociale ou solidaire. Donc, par exemple, depuis le confinement, il y a des projets où on fait de l'aide alimentaire avec la banque alimentaire. Sinon, il y a de l'hébergement d'urgence. Il y a de l'accueil d'activités économiques, de personnes qui montent leur projet professionnel. Donc il y a de la location d'espace à moindre coût dans des endroits quelquefois qui peuvent être très onéreux. Et il y a de l'accueil public, une interface en fait entre toutes ces personnes qui co-vivent ensemble dans ces espaces et le public qui vient pour de la programmation, pour déplacer leur club de Scrabble dans les espaces Yes We Camp partagés avec des hébergés et des travailleurs. Et c'est un peu ramener de l'espace public dans des espaces où il y a des hébergés et des travailleurs. Donc en fait, ça a créé des sortes d'histoires qui sont dans des temporalités différentes selon les projets et qui mêlent des personnes. Et ça crée en fait un microcosme assez hybride, inattendu, qui ne se passe pas toujours dans la rue, dans nos villes, au quotidien. Et du coup, depuis, les Grands Voisins ont duré 5 ans. Et ensuite, c'était en fait un ancien hôpital et qui a été récupéré, et il était question d'en faire un projet d'éco-quartier. Donc en général, quand on arrive sur un lieu, on n'a pas forcément d'ailleurs, au départ, il n'y avait aucune subvention sur nos projets, c'était de l'autofinancement complet. On arrive sur un lieu, on sait qu'on est là pour impulser une action, et que notre impulse, en fait, elle va durer un temps, et quand on s'en va de cet endroit et de cette histoire, l'histoire peut continuer par la rencontre de tous ces acteurs qui a émergé durant cette période, en fait. Après, elle peut continuer, pas forcément dans les lieux, dans le bâti, mais elle peut continuer d'une autre manière. Au Grand Voisin, par exemple, dans l'écoquartier, il y a des bâtiments qui ont été conservés, dans lesquels on avait créé une cafétéria. Il y a des acteurs qui avaient monté leur activité économique qui sont aussi restés dans l'appel à projet de l'écoquartier. Donc il y a les Grands Voisins. Actuellement, on a aussi des friches extérieures. Donc on a par exemple les Groux, qui sont à Nanterre, ou le parc Foresta, dans le quartier nord de Marseille. Les Grands Voisins sont terminés, mais on a un peu déporté ce modèle. Donc c'est une association de 3 associations, qui est donc SOS ou Aurore quand c'était à Paris, Plateau Urbain pour l'accueil d'activités économiques, Yes We Camp pour l'interface publique. Donc on a le projet Coco Velten à Marseille, qui est près de la gare. Le projet Bureaupolis, c'est un projet qui est un peu différent parce qu'il y a moins cette interaction avec l'action sociale. On a plutôt un accueil de personnes qui travaillent, mais majoritairement artistes. Donc c'est plutôt c'est un peu tangent à ce qu'on fait dans nos autres projets. L'auberge marseillaise, c'est à Marseille, c'est dans la seule et unique auberge de jeunesse qui ne fonctionne plus. On a hébergé donc des femmes victimes de violences à se réinsérer dans la cuisine. Et ensuite, on a plusieurs projets qui commencent à émerger à Paris à nouveau, sachant que nos projets marseillais sont sur la fin de la route de Yes We Camp, ils vont être petit à petit relayés aux acteurs territoriaux qui sont impliqués et qui ont été impliqués ces dernières années. Mais le fondement après le camping de Yes We Camp, c'est le projet Caravanade. Donc je ne sais pas si je fais direct la transition là-dessus.
On va en parler juste après.
On en parle après.
Revenir un petit peu en arrière. En fait, comment l'association, en fait, vu qu'elle vit un peu en mode rhizome, par-ci par-là, où est-ce que peut-être est son centre et comment elle a envisagé justement de se situer sur le territoire?
Alors, pour répondre à la question de l'association, le rhizome, c'est un très bon mot pour définir sa localisation. En fait, son centre a toujours été Marseille. On a toujours eu notre siège social ici. Mais souvent, les projets n'étaient pas à Marseille pendant des périodes. Donc, c'est né là. Ça a duré quelques temps ici avec des projets qui ont avorté. On avait fait des projets avec le MUCEM, pour d'autres institutions, pas que des institutions. Et le fil rouge à Marseille, c'est le projet Caravanade qui arpente le territoire. Mais souvent, les projets, ils ont été aussi à Paris. Et Les Grands Voisins a été quand même un centre à un moment donné. Et la question a été de, est-ce qu'on décentre notre association là-bas? Et puis finalement, après la fin des Grands Voisins, même si on avait des interventions à Hambourg, à Bordeaux, à Clermont-Ferrand, dans d'autres zones, ça a rebasculé un peu à Marseille avec l'arrivée de plusieurs projets. Et aujourd'hui, on est dans une configuration du collectif qui a beaucoup grandi et se repose cette question. Donc je ne peux pas vraiment y répondre, mais le siège social reste marseillais. Mais comme on redéveloppe encore des projets à Paris, c'est une balance entre la capitale et Marseille. Mais la naissance de ce collectif restera marseillais.
D'accord. Et donc, toi, comment tu es arrivée à...
Alors,
comment
je suis arrivée? Alors, du coup, moi, après mon bac, j'ai intégré une école d'architecture très rapidement. Je pense que j'étais en recherche de ce que je souhaitais faire. J'avais des pratiques artistiques et puis aussi un profil un peu scientifique. Bon, j'ai fait ces études-là en me disant, bon, ça me donnera un métier, voilà. Et au fur et à mesure de mes études, je constatais qu'il y avait un truc qui me manquait, mais j'essayais d'y aller à fond. Donc j'ai étudié à Lyon, à Berlin, à Paris. J'ai ensuite intégré des agences d'architecture, mais toujours avec le souci de... j'ai besoin de me sentir utile, j'ai besoin de savoir qu'est-ce que je fais et pour qui. Et dans les agences d'architecture, j'ai travaillé sur des projets urbains, des concours. Je ne me sentais pas tout à fait à ma place. Et en parallèle de mon travail, j'allais souvent faire des festivals Bellastock, par exemple. Donc c'est un festival qui est fabriqué par une école d'architecture à Paris et qui donne, sur la période de 4 jours, la possibilité à des étudiants d'expérimenter des matériaux, de construire une ville et de la déconstruire en 4 jours. Donc c'est hyper intéressant. Donc c'est un peu de l'urbanisme transitoire. Pas vraiment, mais c'est une manière d'expérimenter la matière, les lieux et les usages qui me passionnaient. Donc ça, je le faisais en parallèle de mon agence. Et j'ai commencé à être intégrée en agence sur du suivi de chantier, du pilotage de chantier. Donc là, je vivais à Paris et j'étais invitée sur un gros chantier à Marseille, les docks village, donc la réhabilitation des docks en 2013-14-15. Et à cette époque, une ancienne collègue de mon école d'architecture, Aurore Rapin, commençait à monter le camping à l'Estac de Marseille, de Yes We Camp. Donc j'allais faire mon travail à Marseille et en parallèle je suivais de loin l'émergence de ce collectif et de ce projet qui me rappelait certaines de mes implications dans d'autres projets comme Bellastock. Et puis ça a duré 2 ans et demi ce chantier, j'ai appris beaucoup de choses. J'étais plutôt dans une ligne très conformiste avec un client privé, Vinci Construction en entreprise générale. Voilà, j'étais dans le monde du business avec... Je le dis pas de manière péjorative, c'est un peu une réalité, mais il y avait quand même beaucoup de mafia dans cette histoire. J'étais employée par une agence italienne qui tenait à faire intervenir des fournisseurs italiens sur le projet des docks. Alors même si c'était pas dans les mêmes normes que la France, Vinci avait quand même racheté pas mal de petites entreprises de la région PACA ou de Corse aussi. Et puis l'investisseur de ce projet, c'est une banque américaine, c'était JP Morgan. Donc j'étais vraiment avec les grands, avec le grand monde. Et je me disais, qu'est-ce que je fous là? Et en même temps, j'ai compris le fonctionnement du monde et j'ai pu petit à petit comprendre où est-ce qu'il y avait des marges de manœuvre pour jouer avec et pour décider de ce qu'on veut faire et mieux décider de quels usages on va faire, comment rencontrer les usagers, etc. Donc moi, il y a des choses qui m'ont déçue dans ce projet d'un point de vue économique, un peu capitaliste. Je trouve que c'était pas approprié à la ville de Marseille. On faisait en face les terrasses du port. Il y avait la rue de la République qui était complètement vidée de ses commerces et de ses habitants. Enfin, je trouve qu'il y avait des paradoxes. Mais par ailleurs, d'un point de vue technique, j'ai appris beaucoup de choses et d'un point de vue de comment fonctionne le monde aussi. Et suite à ça, donc j'ai été assez impliquée et j'ai pris un break. Je suis partie rejoindre mon compagnon en Allemagne qui travaillait là-bas. Et là, je me suis reconnectée à mes pratiques artistiques que j'avais laissées de côté. Donc, notamment, j'avais fait du théâtre, mais j'en fais plus, malheureusement. Mais j'avais fait beaucoup de danse et j'ai recommencé la danse. Et je me suis formée en céramique, en poterie, un peu par hasard. Je suis arrivée dans une région à la campagne en Allemagne, et voilà. Et j'ai poursuivi le chant que j'avais commencé via des chœurs, des ensembles vocaux, des chorales. En fait, j'ai eu plein de petites pratiques artistiques, un peu comme ça, en acupuncture, sans jamais me spécialiser, quoi. Et aussi, en parallèle de ça, j'ai intégré un collectif, une association qui se trouve à Grenoble et qui proposait de faire des workshops de conception-construction en construction terre. Donc, j'avais besoin, en fait, de me reconnecter à des matériaux, à de la matière, à des pratiques qu'on perd dans notre société actuellement du bâtiment. Voilà, je faisais toutes ces activités. Je touchais la terre en faisant du tour et je touchais la terre en faisant des maisons de 15 mètres carrés. Et c'était passionnant. Mais après, ça m'empêchait peut-être d'avoir une vie... Enfin, je pouvais pas en vivre, quoi. Le soleil me manquait et Marseille m'a rappelé. En gros, c'est cette ville qui m'a rappelé et qui m'a dit... il faut y aller. J'ai fait un chantier de pisé en Corse et un jour, en prenant le bateau, en rentrant, je suis arrivée à Marseille à l'aube et je me suis dit, mais cette ville, elle va faire partie de ma vie quelques années, je le sens. Et donc, j'ai appelé mon ami qui travaillait chez Yes We Camp. Yes We Camp, en parallèle, c'était pas mal déployé. À cette époque, du coup, on était plus sur Paris. Et je lui ai dit, si tu entends parler de quelque chose, contacte-moi, je cherche du travail dans le sud. Et du coup, il y a eu une offre d'emploi pour prendre le relais d'un collègue sur le projet Caravanade, qui n'est pas du tout un projet dédié à un poste d'architecte. J'ai postulé en bonne et due forme, et en fait, j'ai été recrutée pour trimballer des caravanes dans Marseille. Et là, l'aventure Yes We Camp a commencé.
Okay.
Voilà.
Ben, ok. Parle-nous du projet Caravanade.
Caravanade, c'est le premier projet de Yes We Camp après le camping, le plus petit. Et celui qui a le plus petit chiffre d'affaires. Donc et pourtant, c'est celui qui est le plus représentatif de ce que fait Yes We Camp sur ces territoires. Donc en résumé, c'est plusieurs boîtes à outils mobiles. Donc en fait, après le camping, avec des étudiants de l'école de la Deuxième Chance des quartiers Nord, on a réhabilité une caravane qu'on avait récupérée. Donc, je faisais pas encore partie du collectif. Et l'idée, c'est que cette caravane, elle puisse naviguer dans les quartiers pour aider des collectifs d'habitants, des centres sociaux, des écoles, à faire du bricolage, à fabriquer des jardinières, à végétaliser des endroits, à fabriquer des bancs, à recréer en fait de la convivialité dans des espaces de la ville qui sont quelquefois délaissés. Donc on intervenait sur des zones qui sont quelquefois publiques, quelquefois qui appartiennent à la ville, quelquefois qui sont... des dents creuses n'appartenant à personne, des zones de cité un peu, des friches, quoi, qui sont pas très grandes. Hein. Au fur et à mesure que le projet a été développé par mes collègues, chaque année, une nouvelle caravane voyait le jour. Donc, en 2015, il y a la caravane interactive qui est née. C'est une petite caravane rouge qu'on appelle la boîte à outils pour le déploiement de cinéma, de radio, d'audiovisuel, de DJ. En 2016, c'est la caravane cantine qui a vu le jour. Donc on a rénové un ancien food truck et on a déployé à l'intérieur une petite cuisine pour pouvoir faire une fois des gaufres, une fois des pizzas, une fois un four à pain, une fois des crêpes. Et ça se déployait sur d'autres événements, du coup. Et ensuite, en 2017, un sauna mobile est né. Donc là, on l'a refait tout neuf sur un châssis de remorque. Et en 2018, un hammam mobile. Voilà. Donc ça, c'est la flotte mobile de Caravanade. Et les actions consistent à venir soutenir en logistique donc comme je l'ai déjà dit, des centres sociaux, des collectifs d'habitants, des écoles. Quelquefois, mais rarement, la mairie nous appelle pour faire des choses, par exemple déployer un cinéma plein air pour l'événement d'une mairie à Istres, etc. Donc ça, c'est des actions qui surviennent une trentaine de fois dans l'année sur tout le territoire des Bouches-du-Rhône, pas que Marseille, c'est la métropole de Marseille. On est allé jusqu'à Istres, jusqu'à Miramas, jusqu'à Salon, jusqu'à Aix-en-Provence, jusqu'à Aubagne. Sur tout le GR 2013, on a pas mal travaillé avec le bureau des guides qui fait des balades artistiques. Et donc voilà, c'est une action qui est assez sociale. Les personnes qui nous demandent des actions ne payent quasiment rien. En tout cas, c'est pas ce qui permet à la caravanade de vivre et de payer un salaire. Et petit à petit, en fait, en 2018, donc quand j'avais pris ce poste, j'ai réussi à faire une double action de ce projet. La ville, à cette époque, souhaitait faire de la concertation pour les ANRU dans Marseille. Et à besoin d'un... Les ANRU, donc, c'est la rénovation des quartiers prioritaires de la ville au niveau national. Donc, ils vont dans les quartiers, ils font de la concertation pour dire « Oui, on va réhabiliter ça, on propose de faire tel chantier. » Ils avaient besoin d'un totem pour ça. Donc, nous, on leur louait notre caravane interactive. Ça permettait de finalement financer nos actions solidaires et sociales dans les quartiers. Suite à ça, j'avais un collègue qui était en régie qui a ensuite repris le flambeau quand je suis passée sur un autre projet des Suécamp. Et juste pour finir, quand on fait une action de caravanade, en fait, quand je dis que c'est représentatif en résumé, en micro, de ce que fait Yes We Camp, c'est qu'en fait, nos actions avec la caravanade, elles durent un jour, une après-midi, un week-end. Des fois, on organisait un bivouac, des fois, on accueillait des personnes qui sortaient de permission de prison en résidence artistique dans la forêt et on leur organisait un bivouac. Enfin, il y a eu toutes sortes d'actions, on peut les voir sur le site, il y a une cartographie. Et en fait, ce qu'on propose, c'est une impulse. C'est-à-dire, je viens une après-midi ou trois fois une journée. Derrière, la personne qui nous a contactés, nous, on était en soutien logistique, elle continue de mener son projet sans nous. Et en fait, on a juste été là pour le démarrage de cette action sur le territoire urbain. Et eux sont ensuite dans l'autonomie pour la poursuivre. Et c'est un peu l'éthique de nos projets dans Yes We Camp.
Et par rapport à ce projet-là en particulier, selon toi, ou selon le projet de manière générale, la mobilité, qu'est-ce qu'elle permet de plus que des projets fixes, des bâtiments, selon toi? Et qu'est-ce qu'elle peut aussi peut-être autoriser comme rêverie? C'est là dont tu parles de projet sur un jour, est-ce qu'un projet comme Caravanade peut être imaginé comme une espèce de caravane au sens nomade, plus du terme?
Tout à fait. D'ailleurs, on avait souhaité monter un projet qui s'appelle La Caravanade, Gênes-Barcelone. Et l'idée, c'était de déambuler de Gênes à Barcelone. Ça n'a jamais été fait encore, mais on croise les doigts. En fait, quand on travaille dans un bâtiment, on est souvent dans un bâtiment qui a été vécu par une activité et qui est vidé de ses activités. L'état du bâtiment, quelquefois, on le constate à Biopolis, il est... très contraignant, il est un peu précaire, quelquefois il peut être hostile, il y a beaucoup d'entretien. Bureaupolis est un très bon exemple pour ça. On arrive dans un bâtiment qui avait un usage inconnu, donc ici c'était des bureaux, et là on demande à ce qu'il y ait un nouvel usage avec de l'interaction publique dans un quartier qui est extrêmement résidentiel. Coco-Velten, c'est un peu la même chose, c'est demander au quartier de venir rencontrer, créer ce métissage dans un lieu fermé. C'est un autre travail, en fait. C'est plus long, ça demande beaucoup plus de temps. Et on voit à Coco-Velten qu'il a fallu plusieurs années pour que ça émerge. Au Grand Voisin, c'est pareil. Bureaupolis, cette temporalité de 18 mois, elle est presque trop courte. Le projet Caravanade, du coup, la mobilité, c'est nous qui allons dans les lieux. On va réveiller des lieux qui sont dans des quartiers inaccessibles, où il y a deux bus par jour. Et du coup, en fait, c'est une manière aussi d'amener de la vie. On vient avec des acteurs, on vient avec des collègues, on vient avec des autres assos, etc. Et du coup, c'est là où le travail il est satisfaisant parce qu'on vient quelque part et à la fin de la journée, on a des sourires, on a une réussite. La temporalité, elle est courte. Moi, ça m'avait beaucoup satisfait, ça. Et dans un bâtiment, bah, derrière, actuellement, le poste que j'occupe aujourd'hui, je fais de la gestion de bâtiment et je suis beaucoup moins en interaction humaine avec les occupants du site et avec le public, ça peut amener une frustration, du coup. Je me retrouve gestionnaire d'un bâtiment à gérer la sécurité incendie, les réparations, partout, quoi.
Mmh. Donc là, tu parles des sourires qu'il peut y avoir à la fin d'une journée caravanade. Est-ce que c'est toujours comme ça, ou est-ce qu'il y a aussi une réception qui peut être plus hostile, ou enfin, certaines personnes qui vont faire des ateliers dans les quartiers nord, par exemple, à Marseille, viennent faire une journée comme ça, et tout le monde sait que ces gens-là sont payés, et du coup, il y a une sorte d'hostilité aussi vis-à-vis de ça. Est-ce que c'est quelque chose que toi, tu as pu rencontrer ?
En fait, quand on faisait les actions Caranade et que je dis qu'il y a d'autres acteurs qui venaient ou d'autres assos, généralement, c'était un copain vidéaste que je payais 150 euros le week-end, quoi. C'était vraiment des missions, pour le coup, très, très solidaires, voire quelquefois bénévoles. Ça peut arriver qu'on ait ressenti de l'hostilité aussi parce que les gens ne sont pas habitués. D'un coup, on va dans une cité, campagne l'évêque, on vient installer de la musique. Les habitants, ils sont plus interloqués, surpris, tiens, mais qu'est-ce qui se passe ? Il y a de l'action dans le village, quoi. Par contre, là où on a ressenti beaucoup d'hostilité, c'est plutôt sur le parc Foresta. Parce que c'est un endroit très complexe, et que là, c'est un peu une caravanade géante. On est dans une friche de 16 hectares, qui est un terrain officiellement privé, mais ouvert aux quatre vents, pratiqué depuis une vingtaine d'années par quelques promeneurs, des motocross, c'était très hostile. Donc, Yes We Camp qui arrive avec ses grands sabots pour dire « Hello, on va vous proposer de faire un parc tous ensemble », c'est très compliqué. Et ça a mis du temps avant que quelque chose se passe. Il a fallu 5 à 6 ans de rencontres avec les habitants, avec les CIQ de la Viste, de Saint-Antoine, de la Castellane, de Calisté, de Plandau, des cités autour. Avant de pouvoir réaliser quelque chose, il a fallu des années de rencontres, de dialogues, d'échanges, pour dire, en fait, on veut faire quelque chose avec vous, pour vous, proposer des choses, qu'est-ce que vous voudriez voir émerger sur ce site. Il a fallu des années, quelquefois ça a été tendu. Et je comprends, en fait, aussi, que quand des gens du centre-ville, entre guillemets, viennent proposer quelque chose, ça puisse être mal reçu. Aujourd'hui, ça va. Aujourd'hui, il y a une réussite, il y a des accomplissements sur ce site. Pour les actions Caranade, c'était quand même moins. Je pense que c'est plus de la timidité. Quand on est allé sur des camps roms pour les aider à construire des toilettes dignes, etc., je pense qu'ils étaient plutôt dans le remerciement, au contraire, et la stupéfaction même que quelqu'un vienne les aider à faire ça.
Par rapport peut-être à des projets qui comprennent l'hébergement d'urgence et l'interaction avec la population locale, du quartier, etc. Comment cette population locale contribue au tissu culturel, artistique, associatif des lieux et des projets Yes We Camp ? Est-ce que il y a, donc là, tu parlais de discussion. Est-ce que des gens intègrent l'équipe aussi, ou est-ce que c'est vraiment toujours plutôt une discussion ? Il y a quand même deux espaces qui se rencontrent, mais peut-être qu'ils ne se mélangent pas. Comment vous gérez cette interface finalement comme vous avez vu ?
Je pense que ça a été différent sur chaque projet, parce qu'à chaque fois, on est confronté à des contextes différents, des populations différentes. Mais l'intention de Yes We Camp au départ, c'est quand même d'être en soutien pour aider les personnes, soit qui vivent dans le quartier, soit qui sont hébergées, à elles faire émerger un projet qui leur tienne à cœur. Après, bien sûr, au Grand Voisin, on était une très grosse équipe. Il y avait une équipe de programmation culturelle, et de fait, là, les choix de programmation, ils étaient quand même régis par notre structure, aussi pour permettre à des personnes qui vivent à Paris, et tout type de personnes, de venir répondre à ces invitations et ensuite créer un mélange. Mais ce qui s'est passé au Grand Voisin, je peux donner cet exemple, c'est qu'il y avait 300 migrants hébergés sur la première période, après un peu moins. Parmi ces personnes, il y en a pas mal qui ont pu retrouver une activité qu'elles avaient perdue dans leur pays d'origine. Par exemple, il y avait un forgeron qui avait retrouvé cette activité-là et qui l'a exécuté sur le site des Grands Voisins. Il y en a qui ont retrouvé une activité de restaurateur et qui ont pu reprendre une activité grâce au lieu et grâce à notre implication de vente de nourriture pour leur profit. Et il y en a même qui ont quelquefois intégré un peu nos équipes, soit au départ bénévolement, soit petit à petit par salariat. Je pense notamment à Momo, qu'on appelle, qui était malentendant, enfin, sourd-muet, et qui a été impliqué, et Fatih également, grand voisin, qui était impliqué vraiment dans la vie du site. Et à la fin des grands voisins, ils avaient l'impression de divorcer d'une famille. Et aujourd'hui, dans les nouveaux projets qui réémergent à Paris, ils sont toujours là. Même si c'est pas rémunéré, ils sont toujours là. À Foresta, cette dernière année qui a été pour moi la réussite, l'émergence d'une réussite, après beaucoup d'années de labeur pour faire émerger quelque chose, on a eu des années de labeur dans l'ombre et aujourd'hui ça apporte ses fruits. Et ben, il y a plusieurs personnes des quartiers alentours qui ont été embauchées par l'équipe parce qu'en fait, on constatait et on y croit que c'est parce que ces personnes qui viennent de leur quartier, qui connaissent leur quartier, les enjeux du quartier et ce dont ont besoin les usagers, intègrent l'équipe que le projet réussira. On est en train de déléguer ce qui a été fait à une association qui s'appelle l'Association Foresta et qui va comporter les acteurs de tout le territoire alentour du parc qui se sont rencontrés pendant toutes ces années, qui ont fait des actions culturelles sur le parc, des manifestations festives et qui petit à petit se sont rencontrés, voilà. Pour revenir sur Caravanade, quand je travaillais sur ce projet, j'avais un volet programmation, action, j'étais sur le terrain. Et puis j'avais aussi un volet développement du projet. Donc dans le volet développement, il y a eu autonomiser financièrement le projet pour qu'il dépende le moins possible de l'association Yes We Camp et le moins possible de subventions, pour ne pas les voler aux autres structures. Et il y avait le volet SMH. L'idée, c'était que ce ne soit pas Caravanade qui arpente toutes les Bouches-du-Rhône et qui fasse l'ensemble de toutes les actions, mais que cette idée de mobilité, de nomadisme, comme tu dis, puisse être inspirante pour d'autres activités. Et du coup, dans nos actions, on a aussi aidé des collectifs à se fabriquer une unité mobile. On l'a fait pour une miellerie dans le Var, une miellerie mobile, pour un centre de shoot mobile. Et après, nous, on s'est dit, mais en fait, notre caravane atelier, elle est trop grosse, elle est impraticable dans Marseille. Et souvent, le chantier, on le fait pas dedans, on le fait à l'extérieur. Donc, on s'est dit, il faudrait qu'on fasse une caravane atelier en vélo. Et qui soit tractable facilement, avec des petits tiroirs, un peu, un truc un peu japonisant, bien compact. Depuis cette période, ça fait donc 4-5 ans, je vois de plus en plus de structures, de collectifs qui sont mobiles, qui font des livraisons de nourriture à vélo, qui font de la réparation de vélos à vélo et qui ont leur petit atelier sur des remorques cargo ou qui font de la récupération de compost comme les alchimistes en vélo. Du coup, la mobilité, c'est un peu l'air du temps. Donc l'idée, c'est pas que Caravanade prenne le monopole du truc, mais au contraire, ça inspire tout autre type d'activité urbaine. Et on revient en fait à il y a 50 ans quand il y a le laitier qui passait dans le village te livrer ton lait ou ton pain. C'est trop beau quoi.
Ces projets impliquent quand même une collaboration assez forte du coup. Et le fait de voir qu'à lâcher le projet pour aller en fabriquer un autre ailleurs, cette espèce de mobilité permanente, elle n'est pas, je sais pas, frustrante ou fatigante à force.
Bon, c'est le jeu. Pour l'instant, notre configuration, c'est d'être dans de l'accompagnement temporaire pour des projets et comme il y en a qui le disent d'ailleurs, je fais une parenthèse, on n'est pas que juste dans la maintenance de bâtiments au bon service de propriétaires ou d'investisseurs. Ça, c'est ce qui arrive quelquefois et c'est malheureux et on essaye de se dépatouiller de ça parce que l'éthique de fond, c'est plutôt d'accompagner des projets territoriaux. Et du coup, il y a une forme de frustration quand ça se termine, il y a une forme de tristesse, ça peut arriver. Mais je pense que ça dépend pour qui individuellement dans le collectif. Et quelquefois, c'est un soulagement, en fait. Parce qu'on y met tellement de l'individuel dans l'implication que des fois, ça nous mange. Et que quand on se dit, en fait, on arrive au bout du tunnel et qu'on constate qu'est-ce qui a été accompli et la réussite, on est content, en fait, de relayer le bébé à quelqu'un d'autre en toute confiance. Donc c'est ambivalent. C'est...
Je poursuis un peu la question. Toi qui as des pratiques artistiques dans lesquelles tu t'investis, qui sont a priori des choses que tu vas avoir à long terme en fait, ce travail-là d'accompagnement ou de montage de projets, de fabrication, de création de lieux, d'environnement, de relations aussi, ça ce sont des choses que tu arrives à desquels tu arrives à te détacher?
En fait, c'est là où ça dépend comment on prend la chose. Soit on prend la chose comme c'est mon travail, je sépare la vie personnelle et le travail. Soit c'est plutôt ce qui se passe, les relations qu'on fait avec toutes ces rencontres qu'on fait, ça devient des relations qui peuvent être amicales. Et d'un point de vue architectural, moi je trouve ça à la longue épuisant de pas être dans le pérenne. Je dis pas pérenne dans le sens il faut faire un projet d'architecture, déposer un permis et après je pourrais le mettre dans mon book. C'est pas ça que je veux dire. C'est que là, à Bureaupolis par exemple, on déploie une énergie quand même énorme à ce que 250 artistes plus 100 personnes d'une école de soins infirmiers soient confortables et puissent faire vivre leurs activités. Et en fait, à peine le moment arrive où on peut être dans une routine, on doit déjà commencer à terminer la chose. Et d'un point de vue spatial, aménagement, c'est épuisant. Souvent, en fait, d'ailleurs, on propose des aménagements qui sont précaires, qui sont moindre coût, parce qu'on a des budgets qui ne le permettent pas. Donc, ça va être de la solution, une solution précaire, quoi. Je vais faire ça avec du matériel de récup, je vais faire ça par un copain, on va faire venir des gens, ils vont faire ça. Et en fait, on se dit, ben, on reste que 18 mois, ou il reste plus que 6 mois, on va pas faire un truc qui nous coûte trop cher comme ci ou comme ça. Et à la fois, ça a créé des choses inattendues, parce que c'est comme une œuvre d'art, on fait peut-être des fois avec ce qu'on trouve. Donc c'est passionnant, et à la fois, quelquefois, c'est frustrant parce que ça demande beaucoup d'énergie, et des fois, ça coûte pas moins cher, en fait, de faire plus précaire, moins bien et moins cher. Donc d'un point de vue archi, ouais, moi je trouve ça fatigant, et je me pose la question de comment va évoluer notre collectif, et est-ce qu'à un moment, on se la pose d'ailleurs collectivement, est-ce qu'on recherche depuis plusieurs années ce qu'on appelle un, entre guillemets, hameau, c'est-à-dire un lieu où ça pourrait être un peu un centre d'où partent les interventions à l'extérieur. Mais changer de lieu, changer d'équipe, changer de contexte, c'est à la fois passionnant et à la fois épuisant. Mais c'est une question qu'on, voilà, qu'on se pose dans le développement de l'asso. Qu'est-ce qu'on veut faire? Toute l'énergie qu'on déploie ici, moi je me dis, finalement dans 6 mois on redéménage tous. Bon, Foresta s'est voué à être un parc métropolitain pérenne. Donc quand je suis, moi, quand j'ai pris mes congés de l'équipe et de mon implication dans le projet. J'étais toujours impliquée un peu à l'extérieur, puisque ça restait un projet Yes We Camp. Et j'y retourne régulièrement. J'y étais encore hier pour un déjeuner. Et, je trouvais ça fantastique. Et en fait, je constatais d'ailleurs hier que toutes les personnes qui étaient invitées à ce déjeuner, c'était le directeur du centre social, celle qui gère l'hôtel du Nord, une qui est dans les jardins partagés en proximité du parc Boulevard Hanoï. Toutes ces personnes qui ne sont pas de notre équipe Yes We Camp sont là, je les connais, j'ai fait des actions caravanes avec eux et je me rends compte que c'est des relations qui peuvent durer. Et ça fait vraiment plaisir.
Est-ce que ce projet de hameau qui parle a quand même des pistes pour exister? Est-ce qu'il consiste plus en une base pour l'équipe, ou c'est quand même un projet type Coco Elton, mais un peu étendu, un peu genre village, où la culture serait un peu aussi au centre de l'action peut-être? Et je complète juste un peu la question, est-ce que du coup ce serait une espèce de concrétisation pérenne de ce qu'on peut entendre parfois en ce moment d'alternatives urbaines?
Ben, c'est la grande question qu'on se pose. Et dans notre collectif, les avis divergent, j'ai l'impression. Mais le hameau, depuis qu'on l'évoque, ça fait déjà bien 4 ans, l'idée c'était plutôt d'acheter un lieu rural, donc d'en être propriétaire. Bon, après, la manière dont on peut être propriétaire, il y en a des dizaines de sortes. On peut monter des SCI, on peut être dans des bails, dans des baux, avec des mairies, etc. Bon. Donc la forme, je sais pas. Mais c'était plutôt être propriétaire d'un lieu et s'implanter quand même dans un territoire rural. Et c'était à la fois, c'est notre centre, c'est notre maison, c'est notre lieu de ressources. Et c'est aussi un endroit où, bien sûr, il faut interagir avec l'extérieur et le territoire, sinon on n'est pas Yes We Camp. Après, ce qui arrive, c'est que nos énergies sont toujours très mobilisées dans les projets, qui prennent beaucoup. Et on ne trouve pas de lieu finalement à acheter, Donc la question se pose en ce moment de est-ce que c'est vraiment un lieu rural qu'on cherche, puisqu'on on participe aux constructions des villes depuis le début. Donc est-ce que c'est vraiment rural, notre quête ? Pendant la période où Yes We Camp était plutôt parisien, avec les grands voisins, à Marseille, il y avait le siège, la caravanade et la toute petite équipe Foresta avant son émergence. On était moins de 15 et on était dans un bureau à Bougainville, donc près d'Arinque, dans lequel on avait un atelier, des bureaux, une cuisine, un atelier de bricolage, le garage de nos caravanes. Et en fait, on se rend compte que ce lieu, qui était plutôt le siège social, on avait peu de visiteurs et pas d'interaction avec une structure, avec des hébergés d'urgence, etc. Mais on était en lien avec deux autres collectifs de Marseille, Cabanon Vertical et le collectif ETC, donc c'est des copains. On se rendait compte qu'en fait, ce centre permettait de peut-être répondre à la question de la volonté d'un hameau, à peu petite échelle. Donc aujourd'hui, il n'y a pas de réponse, mais il n'y a que des questions sur est-ce que c'est vraiment rural ? Est-ce qu'on est vraiment propriétaire ? On s'est posé la question d'être propriétaire, copropriétaire avec des artistes de Bureaupolis aussi, pour poursuivre l'aventure Bureaupolis en dehors des murs. Donc tout ça, c'est des questionnements, mais la volonté d'un centre, on se rend compte qu'elle est nécessaire pour pas que notre collectif soit complètement éclaté et vacant en permanence. En plus, je pense que chacun, là, le collectif, il a bientôt 9 ans, on vieillit, on n'a pas les mêmes besoins, on n'a pas les mêmes attentes, on n'a pas la même énergie. Donc forcément, ça risque de se transformer.
Tout à l'heure, tu parlais de l'économie du projet aussi. Du fait qu'au début, c'était des fonds propres, qu'ensuite, il y avait des subventions. Et du coup, en fait, c'est vrai que sur plusieurs projets comme ça, il y a plein de gens qui sont impliqués. Donc il y a plusieurs salaires, il y a des services civiques, il y a des stagiaires, je crois. Comment une telle activité et comment des projets, par exemple, comme Bureaupolis, se structurent économiquement ?
En fait, chaque projet a un peu son modèle. Il n'y a pas de modèle fixe pour tous. D'ailleurs, on a eu des interventions des fois qui étaient de 4 mois, par exemple à Bordeaux. Là, on était appelé par des institutions pour un événement artistique. Donc c'est des fonds plus comme la DRAC, comme la ville, etc. Mais chaque projet a eu son modèle. Voilà, après, Bureaupolis, par exemple, c'est un projet qui a des rentrées d'argent par la location d'espace. Et sans la présence de la Croix-Rouge dans les locaux, donc cette école de soins infirmiers dont l'administration occupe un étage et qui paye un loyer conséquent parce qu'ils ont les moyens, parce qu'ils sont en transition entre des écoles. En fait, on n'aurait pas pu accueillir tous ces artistes avec ce loyer-là. Donc c'est toujours c'est pareil, il y a toujours du négatif dans le positif. Et Caravanade, c'est le seul projet qui était subventionné au départ, à hauteur de 10% de son chiffre d'affaires, qui était à l'époque de 50 000 euros par an, donc c'est minuscule. Aujourd'hui, on monte à 80, 100 000 euros par an. Et peut-être que nos subventions ont un peu grossi. L'idée, c'était pas non plus de prendre les subventions des CIQ pour qui on vient donner de l'aide. Donc tous les paradoxes du système de subvention, il a été réfléchi dans nos projets, c'est très complexe. À Foresta, c'est pareil, on est sur un parc privé, on a obtenu une subvention européenne publique pour un projet d'intérêt public, on n'était que dans des paradoxes très complexes qui ne sont pas résolus. Et derrière, quand on est financé par des subventions, on a des comptes à rendre, en fait, c'est comme un client. Du coup, j'ai l'impression qu'il n'y a pas de schéma idéal dans notre monde actuel, dans notre société telle qu'elle fonctionne économiquement. Ce ne sera jamais idéal. Et ce que je constate donc depuis 1 ou 2, 3 ans, c'est que j'avais quitté l'agence d'architecture parce que je me sentais triste de me dire « je contribue à un monde pour lequel je ne cautionne pas, je dois chercher des clients, vendre des projets en me prostituant presque parce que sinon je n'ai pas de travail ». Et la reconnaissance de mon métier, tant pis, je ferai des immeubles moches, c'est pas grave. Et ben en fait, je constate que même dans notre énergie un peu même politique, dans notre volonté de changer les choses en Yes We Camp, on arrive à être en lien avec les institutions et du coup à se dire « je vais pouvoir essayer de changer les règles du jeu de ce monde ». Quelquefois, on se retrouve dans un piège. Donc c'est jamais idéal. Après, derrière, l'idée, c'est toujours qu'il y ait cette histoire qui soit racontée, ces interactions qui puisse exister quelque part dans des quartiers oubliés, en fait. Ou dans des mondes oubliés, comme l'art, ici. En fait, ce qui est sûr, c'est que c'est comme ça que... Je trouve ça passionnant, moi, d'être dans la bulle de Yes We Camp, de mon métier, de mon quotidien et tout. Et après, d'en ressortir. Et je le faisais beaucoup plus en caravanade, parce que j'étais beaucoup plus en lien avec l'extérieur qu'avec mes collègues. Mes collègues, je les connaissais très peu quand je faisais caravanade. Et j'étais plutôt seule, je trimballais mes caravanes, je cherchais trois copains pour faire du bricolage une après-midi. Et du coup, ressortir de ton contexte de travail pour aller écouter ce que les autres perçoivent de ton travail, de ton collectif, ben c'est intéressant parce que du coup, tu te dis « Ah, c'est ça qu'on montre au monde. » Et là, ici, lui, c'est ça qu'il voit de notre travail. Et ça nous remet en question. Et ça nous... La remise en question, elle permet d'évoluer, de s'améliorer, de... Enfin, de... Vu que notre collectif évolue, que des fois, il y a eu des périodes où on a grandi, on est devenu nombreux, on percevait moins le collectif, on a l'impression de devenir une structure multinationale. Ben, en fait, de toujours se remettre en question, et aussi par le regard des gens extérieurs, c'est très important. Et moi, c'est le regard extérieur qui m'a fait me dire « Ah oui, les gens nous voient comme des « je vends de la bière, donc je fais du social ». C'est un petit résumé, mais n'empêche que c'est perçu comme ça. Faut l'intégrer, ça, pour essayer de se remettre en question et faire évoluer différemment. Ou bien, oh là là, ils sont trop subventionnés, ils lèchent les bottes de l'État, etc. Ils prennent les subventions de tout plein d'autres actions. Ben, oui et non, en fait. Tous discutent parce que c'est pas si facile, c'est pas si simple.
Je fais un peu le tour des questions, mais si t'as envie de partager quelque chose de plus.
Pour revenir sur l'introduction, je ne fais pas de théâtre en ce moment. Dommage, parce que j'en avais fait et j'aimais beaucoup la scène. Mais je retrouve la scène par un autre biais. Parce qu'aujourd'hui, du coup, je suis à temps partiel dans mon implication Yes We Camp pour faire une formation de musicien professionnel en chant. C'est un peu arrivé comme un cheveu sur la soupe. Mais ça me ravit que Yes We Camp m'ait permis cette espèce de virage. Et pour moi, ça ne veut pas dire au revoir l'architecture et au revoir Yes We Camp. Pour l'instant, j'en ai aucune idée. Mais c'est une satisfaction de compléter, un peu comme vous dans votre pratique, Luc, divers mondes. C'est ça qui a du sens, en fait. C'est de ne pas séparer les pratiques. C'est de ne pas les séparer dans des boîtes. Et ce que j'apprécie dans le collectif Yes We Camp, c'est aussi qu'on a des métiers complètement différents. C'est parce que tout ça fonctionne en symbiose qu'il peut émerger des choses belles et offertes aux autres et au monde. Et du coup, retrouver ma pratique musicale qui aurait pu être théâtrale ou de comédie, en tout cas de scène, me ravit parce que je la complète à ma pratique de l'architecture ou même, il y a encore un mois, je faisais un chantier en terre crue en Bourgogne et j'apprécie cette volonté que vous appliquez de pas trop scinder les pratiques, mais plutôt de les refaire se rencontrer.
Merci. Et est-ce que par rapport à ta pratique artistique, hein, le chant, tout ça, c'est une pratique individuelle ou c'est dans un groupe que tu te retrouves être, je sais pas, chanteuse ou chœur ou...
Alors, dans mon parcours musical, j'avais plutôt un parcours individuel au départ, fait du violon, du piano, puis après je suis partie dans la danse et les percussions, puis je suis revenue sur la musique par des implications dans des chœurs, des ensembles vocaux. Et petit à petit, dans certains chœurs, dont un à Marseille, je me suis retrouvée à être soliste sur un ou deux morceaux du répertoire, parce qu'on est dans une chorale où chacun peut tourner sur des leads, si tu te sens... c'est un cadeau qu'on m'a fait, en fait. On avait participé à un festival en Kabylie, dans lequel, du coup, on était un peu voués à nous-mêmes, notre chef de chœur n'était pas là, on était moins nombreux, et il a fallu que chacun prenne le lead d'un chant, parce que c'est des chants afro-caribéens hein, où il y a vraiment un lead, une transe collective, enfin voilà, c'est des questions-réponses, quoi. Et je me suis retrouvée là, donc là, je fais partie de ce groupe. Dans mes études actuellement, c'est plutôt un parcours individuel, mais dans lequel je suis confrontée avec d'autres étudiants, instrumentistes ou chanteurs à faire des choses en commun. En parallèle, j'ai des petits projets qui émergent. J'ai un frère musicien à Lyon avec une de ses amies qui me propose d'intégrer un trio. Donc c'est vraiment l'état de gestation, c'est tout début. j'ai constaté que être seule en musique, c'est quand même difficile. Il faut savoir s'accompagner. Enfin, on peut chanter a cappella toute notre vie, mais c'est autre chose, quoi. Et souvent, la musique, elle s'accompagne d'autres pratiques, de la danse, de l'instrument, d'un chœur. Donc j'espère que j'arriverai à le déployer avec des groupes. Parce que dans le partage, je trouve ça trop chouette.
T'as des enregistrements de... Parce que je ne suis pas de ton groupe, par exemple. Parce qu'on pourrait en diffuser un, si tu veux.
Ouais, ben carrément.
C'est chouette d'avoir ça.
Ouais, il y en a un, c'est un chant haïtien. C'est plus une incantation à la paix, qui est très beau, très profond. Après, avec mon frère, dans le trio qu'on est en train de monter, il y a des morceaux qui sont... On est en train de se caler, quoi, mais je peux très bien, oui, je pourrais vous partager des trucs.
Merci beaucoup,
Fanny. Eh bien, merci. Merci, Mathis. Merci, Oukluk.
El telo en ta mewin alim nerdu de sama el telo jaye mewin alim en beit el jiran el telo haif min alim el kafa serban el telo risha takwin alifat fata sama Asfur tam nashipak wali yanunu Rabbini andek rabbini darlik yanunu Rabbini andek rabbini darlik yanunu
Après ce chant, Asfour, composé par Marcel Khalife et interprété par Fanélie Pardon, nous allons rencontrer le collectif Saola.
En 2019, notre collectif Ukluk imaginait le projet Something Missing, un projet itinérant entre l'Inde et le Vietnam, Sulawesi et le Japon, explorant la transmission de gestes, le partage culinaire, la poésie, la traduction et la performance. L'idée de départ était de voyager afin de faire revisiter la recette de la blanquette que la mémé Louisette d'Angèle faisait si bien, mais que personne n'a jamais notée. Que chaque rencontre au fil de notre itinérance permette d'agréger de nouvelles manières, de nouveaux gestes, de nouvelles interprétations de ce plat. Et que par la rencontre, des récits soient collectés, des poèmes partagés, des moments de performance envisagés. Ce qui nous intéresse, ce sont les traditions culinaires, comme la cuisine de rue au Vietnam, ce que la cuisine renferme et dévoile d'une culture, et l'intimité qu'elle permet. De ces moments de partage, nous souhaitions recueillir de la matière, principalement textuelle mais aussi visuelle, afin de produire un journal d'itinérance qui soit la trace du processus de traduction, à la fois de la recette, mais aussi des récits et poèmes glanés. Durant le premier confinement, nous avons lancé avec beaucoup d'optimisme plusieurs bouteilles à la mer, entre l'océan Indien et la mer de Chine. Et quelques-unes d'entre elles ont trouvé des interlocuteurs, RIS, tout aussi enthousiastes. C'est comme ça que Sophie Hughes, implantée au Vietnam dans le réseau culturel et artistique du pays, nous a mis en contact avec le collectif Saola, dont les membres ont tout de suite montré leur intérêt pour le projet et sa faisabilité chez eux. En attendant la prochaine occasion de pouvoir décamper là-bas, nous avons choisi de commencer à tisser nos liens, de penser échange et de les inviter aujourd'hui à présenter eux aussi leur lieu et leur création sur Radio UCLUC. Avec elle, nous allons tenter de saisir ce qui se joue de cette notion de convivialité au Vietnam et en particulier au Kuro Bar, ce lieu fondé à Saigon en 2017 et qui a migré à Dalat. Un lieu pluridisciplinaire où les pratiques se rencontrent, s'influencent, se nourrissent et où une équipe dynamique et sympathique accueille les artistes et chercheurs en résidence.
Hello, it's about 1 p.m. here, so it's 7 p.m. in Vietnam. And we are so happy that the collective Saola gathered to meet us and share the projects they lead in Dalat, South Vietnam. This project is called Kuro Bar, a place where you welcome researchers and artists in residency, especially by encouraging collaboration between them and local farmers and or botanists. Over there, we can find a restaurant, a library, a vegetable garden, a workspace, a bar, and also see meetings and events you organize. As we are focusing on conviviality, user-friendliness, for this second podcast of Radio UCLUC, we wanted to share your approach.
So, to start, how was the collective Saola born? What brought you together? Common points?
So, Dylan will talk and then I will translate.
Okay.
Okay.
là giống như là Saola là chơi với, mới đầu là mấy người bạn á, chơi với nhau á. Thì đầu tiên là Saola là làm một cái project cho cái gallery. Và coi như là một nhóm độc lập luôn. Và cái dự án đầu tiên á là làm là hoàn toàn là làm cộng đồng á.
Okay, so the Saola collective, it started with a group of friends and they just like to hang out together, and at the start they were involved in a gallery project. They didn't do the gallery work anymore but started to work as an independent group, the Saola Collective, and the first thing was about building a community.
Maybe you can introduce yourself, each members.
I'm Sarah or Thuy Tinh, and I think I write poetry. This is my main practice, and I used to perform a lot. Recently, my practice kind of changed, and I do more film and installation. I'm exploring new areas, but always I love to work with words, with language. And that was a big motivation for me to learn Vietnamese so I can start to practice in Vietnamese when I'm living here.
So I am Lan. So I am one of the artists in Saola. So the collective with the artists, we are very flexible, right? The core members is me, Đạt, and Lan, and yeah. But it's like maybe sometimes like 6 members, sometimes it's like 10 members. Like anytime we have a project, then friends artists involved. And now Kuro, we have Sarah, Thủy Tinh, and Tùng.
Hello.
Hello.
So maybe to talk about what kind of artist are you?
I am. I was trained as a painter. So I studied lacquer painting. But after university, then I tried many material methods. So I first some community art project. Every artist in the collective have their own personal project. But when we form together, we will create some community project.
So Tùng, want to
hello, my name is Tùng, and
I'm a kind of a filmmaker, and I do films and videos a lot. Not so much, but like yeah, I'm into that. Nowadays, like I'm a few stuff with the bar, with so I do some kind of like with different material to learn skills. Like I trying to build a house like for friends now. And then like some technical stuff, and I make furniture sometimes.
The members of Sound Lab built the bar. The space is like a really big, beautiful greenhouse. Domen, other built it from nothing.
First, you had the place in Saigon, and after you moved because you wanted to build your own place.
So. First, with Sala, we rent the studio together, so we share the rent, and we have a studio in an old building. I think it's for around like 2 years. Later, when gathering with artist friends from the north, from the center, then we thinking about making cocktail from Vietnamese liquor, because it's very interesting, because when we gathering, we often have some a little bit liquor and talk and chit-chat. And so we try that, and then we say, oh, it's a nice idea. And when we make an exhibition, so we turn the studio into a local bar with the exhibition. And then we keep the bar, like we open the bar for nice a week in the studio in Saigon. But then it's maybe more than 2 years, and then the people, the landlord,
they wanted to take the apartment back.
Yeah, and we thought it was quite enough with Saigon at that moment, because we were all the time in Saigon, and there's some change. And then one member of Saula, he already have a studio in Dallas, and we love to make a bar, a different vibe, different idea, concept than in Saigon. Then we want to make a bar in kind of like a nature, like inside, outside, quite feel like the same. So we build a greenhouse.
But it's very special kind of atmosphere with a lot of plants and trees inside, and a lot. It's possible to have this kind of space in Dallas. Like, you cannot have it in the city, in Saigon.
Yeah. And so how does the practices coexist there? The different activities between the bar, the residency, how it looks a week in Saula, in Kurobar?
It's a bit chaotic, honestly. It's a bit like unpredictable.
Yeah.
Like, for example, at the moment, there's like many things happening suddenly. It's also the past 2 years with COVID have affected how we can plan and how we can predict what will happen, or what kind of events we can have here.
But actually, we are kind of make it very natural. Like, yes. We don't like to plan. So when we are together, it's like it become very natural, right? When some friends from Hanoi and maybe some in Hue in the center, and they come and they want to work with something, we introduce, we give them like we just very friendly chit chat, and then everything comes very naturally.
It's kind of like the convivial idea that we talk about, that and the flexibility that Dylan talked about, that is kind of open to all ideas and all events and all programs and all practices. Then we just try to manage the time so that we can manage our time and our energy to focus on the right thing.
Soon we're gonna have an quite big program, like we want to do the festival for artists community in Vietnam, and then it's gonna happen in Dalat. That's like our biggest plan. The rest is more like very spontaneous, and like. So we have a bar here, and when we have the place to stay here, and like a lot of our friends come during a year, and people come to visit, and then sometimes people stay for a few months, people involved into art. At the time, like we spend together, we kind of think about how to match our interests. But I think the most important part for me is like we kind of live together in the town. Yeah, and then but we spend most of the time here, and then we talk and we do sport or activities like a lot, and then we eat together, we drink together, and I think that kind of like bonding is quite important. Also like the nature, the weather, the season of the fruit, or like the anything, like the animals, or I think we more in interested in to the follow the nature way of like thinking and
how is the relationship with the inhabitants around Kourou-Bar? Are the inhabitants involved in the project? Do you develop a special program to make meetings with them or activities with them too?
Ô này có liên quan gì đến hàng xóm, đến thành phố nói chung á. Mấy cái chương trình có mình có rủ 10 người đến chơi, hoặc là chỉ no chỉ dành cho những nghệ sĩ thôi.
I think it's more like we try to influence more like young people, like people that attract by
attracted.
Us. It's gonna come like people in interested into art gonna come, and then like we kind of like try to create a community, and sometimes we do some stuff that in involve everyone in. I think like we more headed in the community of Đà Lạt farmer. Yeah, any kind of people.
Yeah, giống như là mình nói cái chương trình kỳ này của mình làm với lại bà bầu á, em có thể mô tả cái đó, Bắc Kiều Anh nó làm gì với Quang á, mà mình sẽ gửi hình chụp với các bạn xem.
Yeah, so now we have the residency program with another group called Bà Bầu, and they're based in Hanoi. They support some residencies for different artists in different locations, and here at Kourou in Đà Lạt is one of the locations for the residency. So we had an artist QN who she was here for 1 month. Researching about smell and taste, and she made some beautiful ice cream sculpture and many things.
Yeah.
And now we have another artist, Quang. He's interested in
ecosystem.
Yeah. Ecosystems, and he's also very interested in relationships and like connecting with people. So sometimes the artists in residence also make connections with people in Đà Lạt, even though they're not here all the time. And then for us, we have programs that are open to everyone as well. So, and also we are a bar and a cafe, so it's open all the time for anyone to come. And sometimes people who don't know about the art collective, or certainly not artists, will come and have coffee and talk about, oh, what is this place? And we introduce them to this strange art world, and then the connection with the farmer.
So tomorrow when the artist who now have a residency here in Kourou, he will have a talk with the communities about
swamp land
in Đà Lạt. So it's a very strange and strong idea, because people always think Đà Lạt is like
just like swamp.
Yeah,
like,
some kind of the lowland. But anyway, we have many ways to approach people. And one of the idea behind the local bar is the local wine that we collect from many places in Vietnam. So that's why we can have a connection with the place. We can go there, and that's also the idea to make the bar.
And how your economy is built? Is it only on the bar and the sales, or how do you work?
Okay.
Đó chắc chắn là mọi người
đều cái khác.
Thấy là cái ba này nó chỉ vừa đủ để
chạy
nó chạy thôi á. Hiện giờ mọi người không có tiền tụi nó. mà mọi người cũng bất tình.
Ờ đúng rồi, có nghĩa là khi mà làm những cái chương trình á thì thường là mình sẽ xin sẽ xin các quỹ, nhưng mà nếu mà để mà quán ban này nó sẽ tự chạy còn cái của nó, còn những cái chương trình thì sẽ đi xin quỹ. Và
nhưng mà mình cũng không có dựa vào quỹ mấy, tại vì cái crowdfunding này rất là nhiều.
Mình rất là quỹ và cộng đồng.
Nhưng mà thường là mình không có dựa vào quỹ mà mình dựa vào cộng cái cộng đồng nhiều hơn. Rõ ràng luôn á. Đây mình.
So the with the bar just basically makes enough to kind of run itself and pay the rent here and just maintain. And then when we have a bigger program like the art festival that Tom talked about, then we it's a mixture of asking for funding from institutions for grants and funding, and a lot from crowdfunding. So a lot of donations from the bigger art community, mostly inside Vietnam. Yeah, so that is the economy of it. It's not a big money maker here, but we make enough to get by in the bar, and then for the bigger events we have donations and crowdfunding and grants. Is
Okay, so as we plan to move one day in residency at your place, we've got some more general questions. What is the place of performance in Vietnam?
Do you mean performance art or
place of performance?
Vị trí nào?
Ở Việt Nam.
Trình diễn á hả? Chị nghĩ là cũng được quan tâm đó, mà không cũng có. Nó nổi lên là từ cái 10 năm trước. 10 năm trước
có và cái hơn đấy chứ, hơn á.
Ừ, hơn từ có hồi Nhà Sàn rồi các thứ ngoài Bắc ấy. Xong rồi nó cứ kiểu giống như sao ta,
nó phát triển cùng với cả nghệ thuật đương đại của Việt Nam, phát triển cùng như vậy.
So it's developed, it's still developing. It's in the past a bit longer than 10 years. We say that maybe started in the north, but it's developing in parallel with contemporary art in Vietnam. So there's people who are interested in it, but I would say it's not considered very highly. I think it's still kind of considered like experimental kind of thực nghiệm.
Đúng rồi. Không quá nhiều.
Yeah. It's not considered high art like painting, but it's still developing as an art form, I think. Maybe it's become more popular with younger artists now. So like we have drag performer, drag queen.
Yeah, we will have a show on Christmas.
Yeah, we have a drag performer coming.
And water puppet.
Water puppet is a kind of longer tradition of performance in Vietnam, but
it's not tradition.
I see sort of younger artists are interested in performance art, but it's still not very known. Actually, many performance artists that I met, they studied in Europe, and they get a lot of influence from outside of Vietnam.
Okay.
And I think it's still developing.
And what about sound poetry or standing poetry? Is there is it important in Vietnam?
Yeah.
Important in some way, and not so many people.
Truyền thống, no. Khác cái ý của bạn đọc thơ đương đại đó, có là kiểu từ cái hồi mà cái nhóm mà nhóm nhóm mở miệng, nhóm ngựa trời nè, cái nhóm mà ngựa trời mà Linh Bacardi là có, nhưng mà nó rất là kiểu đó, nó có những cái nhóm như vậy và nó có những cái thời điểm và nó không có được thường xuyên. Và thật ra là thật ra là thơ ở Việt Nam như em biết rồi đó, cái đó em có thể nói
in Sài Gòn rồi đấy.
In Sài Gòn ấy,
nhưng mà nó cũng là nhóm nhỏ. Ý là nó tình hình chung.
I think poetry is also considered quite highly in the written form, but performing poetry, sound poetry, still not really. There are some small, kind of very special niche groups, but Chị Lan say that they usually just for a limited time, they practice together and they perform, and then they will stop practicing. So there are a couple of famous groups like Ngutra and Ming, but they don't really perform anymore.
Yeah.
Right now, there are some, I would say, very small groups who are interested in Saigon. There's the Thoughtful Project from the Bai Library, from Maria, and Hai Dam Tin. But like I said, it's very, very niche and very small. Yeah, so there are also some independent poetry publishing presses or houses. They're very small and quite limited in what they can publish, actually, and how much, how available the poetry is.
Okay.
Yeah.
Another question. Currently in France, there is a lot of events accompanied by food, banquet, for example, as to make a talk or an artistic performance more convivial or integrated as daily life ritual. Is it something we can find in Vietnam?
Does the food take an important place in the way of sharing art?
Yeah,
we think so. I think like every artist have
a stomach.
have to eat and many like to cook. We have an exhibition, and then when we do the artist talk, actually, we just invited people, artists, come for dinner, and the dinner was cooked by an artist and us. And the artist, he used the cow blood to make a painting. So we follow him to the
abattoir. So they cooked a cow.
But they kill cows.
Actually, it's the artist practice. And he used the cow blood to make the painting. So
he used the cow's blood to make a painting. And then you eat the
and for the artist,
eat the head, right?
Yeah, but for the artist talk, then we follow the artist to there.
Oh.
And then we also collect some meat. Wow, it's a very very special and very very difficult experience, but we made it. And then we cook in the gallery.
Okay, yeah, so it was a specific project or it's something you do?
Project. This is okay. Not every week.
Yeah,
just one time.
Yeah. Okay, that's a specific one. But in Kuru. Because we have the kitchen here,
yeah.
So every artist they come, friends they come, and then we cook together.
Artists will cook for the group, or friends will cook for the group.
I saw that you also have collaborations with other art centers or other collectives. For example, I saw maybe on your website that you were part of No Cai Bum Festival.
No
Cai Bum, yeah. No Cai Bum is a festival that we aim to Vietnamese artists and the artists that are living in Vietnam. And then we try to go around, to hanging around, to see other people, other stuff.
Em biết kể là đầu tiên là nó từ từ Huế và mọi người là muốn rủ nghệ sĩ ba miền, chưa có bao giờ có một cái sự tụ tập nghệ sĩ ba miền hết.
Yeah.
Xong rồi sau đó là tới cái lúc đó, mọi người cũng không nghĩ cái tiếp theo như thế nào. Nhưng mà lúc mà ở Đà Lạt thì mình quyết định mình host thì mình open call luôn. Thì nó cũng ba miền, nhưng mà cái lần đầu tiên là ở Huế, cái đặc biệt nó khác á. Là thường là nghệ thuật ở Việt Nam là hay làm underground. Nhưng mà bắt đầu từ cái nỗi cái vùng ở Huế là mình muốn tiếp cận công chúng. Thứ nhất là nghệ sĩ ba miền, thứ hai là tiếp cận công chúng một cách chính thức. Cho nên là mình làm giấy phép và làm ở rất là kiểu.
So like the first time we no cái boom that happened is in Huế, and at the first place that we it's never been happened in a festival is an event for all the like three
region
of Vietnam. We want to do something together. Also, the other reason is mostly Vietnamese art and artists, the underground stuff. A lot of independent artists like working by themselves. Like we try to do one like very mainstream. Like we gather all the stuff of people and try to make it like more official. Get the community to closer to what we did and what we do still doing.
That is something maybe if you don't know about the like legislation and laws in Vietnam, maybe I will say a bit about that. Mm-hmm. Because to put on an art event actually is quite complicated. You have to ask for permission from the culture police and get a lot of papers, and they will check every artwork to see if it's okay, if they give permission. So the Nổ Cá Bông Festival was a really big new thing for artists who've been working independently underground before, to start to have a more official relationship, which means that it can come to more people outside of the artist community. Mm-hmm. And then the one, the festival that we now planning that has been delayed because of COVID is based in Da Lạt. It's even bigger than the one the previous year. This time we did a open call, so to everyone in the
many young
in the country, mm-hmm. with many young artists who maybe don't have an opportunity before to show their work. So that is just a bit of Vietnam background. it's actually a huge undertaking. It's a lot of work to organize a big festival with, I think, 150 artists we had, and many artworks, and they all have to be checked and all have to have papers and all have to be official if we want to have this bigger reach out to the broader community. So it's been a lot of work for the past while. Yeah.
Yeah, and the festival of Nổ Cá Bông, I think it started with a group of artists in Huế, but the one in Huế also involved in an artist in Saigon. So when Sala is a group of artists, right? And then we moved to the lab. There are some friends of us that do things in Saigon with us. He moved to Hue. I think like the communication between different religions is more and more. And then it's very nice. Before in Vietnam, there's like two centers, Saigon and Hanoi, like Ho Chi Minh City and Hanoi. People see in that's true. But then later, like we move. We go to more local, more different cities like Da Nẵng, Huế, Hội An, Đà Lạt. So I mean, and when we combine the art festival there, it's kind of like the artists come and the public come and they discover not only the contemporary art but also the local culture, yeah. environment. And so when we design this. It's included. In Hue, we went to swim in the river. We also design things. It's very like
very Da Lạt.
Da Lạt. Yeah, something that people can discover about the culture and the history. Not only the artwork.
Yeah.
Yeah.
Yeah. I think the special thing about Da Lạt is people love the special weather here, and it's in the mountains and there are woods around. So we have also part of the program will be including the nature and like having interaction with the place of Da Lạt.
Okay, yeah. Maybe we should conclude for today, and maybe we will talk again later. So thank you very much for your presence, even if we are very far from each other. Thank you very much.
Wonderful, thank you so much.
Well, thank you very
much.
Thank you.
Thank you.
Bye-bye.
Good night. Thank you.
Yeah, thank you.
Good night.